Quand le matin apparaîtra où l'époux sera enlevé, il vivra éternellement avec Dieu. Des millions du troupeau des rachetés seront enlevés des douleurs de la terre et verront Jésus, le roi de leur cœur. Quand les saints seront rassemblés tous les peuples de toutes les tribus, nous nous tiendrons alors plein d'étonnement devant le trône de sa grande gloire. Au fin fond de l'Inde, nous voyons le troupeau des vainqueurs venir et de l'Afrique, de toutes les tribus, tribus après tribus. Ceux qui, avec choix, ils peuvent maintenant avec joie récolter ceux qui ont semé avec pleurs. Peuvent maintenant entendre louer l'agneau de Dieu quand les tribus seront rassemblés. Comme ce sera merveilleux. Quand de la Chine des millions de ce grand troupeau apparaîtront et de beaucoup d'îles, le troupeau des vainqueurs vient. Alors toutes les douleurs seront oubliées et aussi les moments d'amertume et les difficultés et les épreuves. Et nous apporterons l'adoration au Sauveur. Quand les saints seront rassemblés tous les peuples et les tribus, nous nous tiendrons et tenir devant le trône de sa grande gloire. Les prisonniers de la Sibérie qui ont été délivrés apparaîtront. Il n'y aura plus de peur et de douleur. Du Brésil, ils viendront avec courage et joie. Ce sera une louange merveilleuse et un honneur apporté au Sauveur qui les a rachetés par son sang. Quand les saints seront rassemblés et verront le trône de sa grande gloire. Nous voulons alors, avec le message que Dieu nous a confié, que Jésus nous a confié, nous dépêcher de le propager, car il veut sauver les jaunes, les noirs, les blancs, les rouges. Car il a versé son sang pour tous. Viens et accepte ce message. Alors toi aussi, tu peux éternellement voir le Sauveur. Quand les saints seront rassemblés, je te demanderai le trône de ta gloire. Après les douleurs, le travail de la terre, je serai dans les rues pavées d'or, dans la sainte ville. La raison de ma joie, de mon adoration, sera Jésus. Ce sera merveilleux. Ce sera merveilleux. Quand délivré des douleurs, je verrai sa face.
femme délivrée de douleur, je pleurais sa face. Je rencontrerai tous mes amis, mais Jésus sera la joie et la raison de mon adoration. Déjà de ce que nous serons là-bas dans la gloire, mais pas seulement un petit troupeau comme nous le sommes ce soir ici, mais là-bas nous verrons tous les saints, tous ceux qui ont persévéré et qui ont aimé le Seigneur, qui ont gardé sa parole et qui ont dirigé leur vie en accord avec sa parole, qui l'ont mis en pratique. Tous ceux-là apparaîtront là-bas. Et je veux aussi dire que nous, si nous devons être attentifs et faire attention de ne pas manquer de vivre dans la parole de Dieu et de ne pas manquer comme ça de ne pas la mettre en pratique, mais que nous puissions l'observer et la mettre en pratique et vivre d'une manière que son bon plaisir se repose sur nous. Je crois que nous sommes d'accord de tout notre cœur, n'est-ce pas? Car c'est lui qui nous a appelés. Tu n'es pas venu de toi-même et moi non plus. Non, c'est lui qui nous a appelés. Ça a été une heure où nous avons entendu sa voix, sa parole. Et je vais vous dire quelque chose. Il appelle encore aujourd'hui. Celui qui n'a pas encore expérimenté peut l'expérimenter aujourd'hui. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Oui, nous sommes justement après le temps de Pâques, selon le calendrier où nous pensons à ce qu'il a fait pour nous tous. Il a accompli une pleine rédemption, pas avec de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, l'homme de Dieu, Pierre, dit les paroles suivantes dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Et que ça n'est pas merveilleux? Oui, c'est quelque chose de glorieux. Parce que pleinement, nous pouvons dire amen à cela avec Pierre et dire oui, nous aussi, nous appartenons à ce troupeau. Il nous a fait naître d'en haut pour une espérance vivante. pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ici encore dans ce corps tout est corrompu, mais nous aurons un corps qui ne peut se corrompre, c'est-à-dire qui sera immortel, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, comme c'est merveilleux de ce que ces promesses nous sont accordées, qu'il vous est réservé dans les cieux, à vous, non pas sur terre. Nous savons que si nous réservons quelque chose sur terre, alors ce sont d'autres qui vont l'hériter quand nous partirons. Mais cet héritage qui est réservé pour nous est dans les cieux et dans la gloire au ciel. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Tout cela n'est pas quelque chose de merveilleux, oui. Et ensuite il dit ici, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange. La gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de votre de vos âmes pour prix de votre foi. Nous pouvons dire simplement amen à cela. Nous sommes heureux et reconnaissants de ce que nous avons une telle parole qui nous a été réservée. Et Pierre n'a pas seulement dit ces choses comme ça autrefois, mais sa parole a aujourd'hui la même valeur. Nous mettons notre confiance dans la parole de Dieu et dans ses promesses. Et c'est ainsi que nous ne pouvons rien faire d'autre que de lui apporter l'honneur, la louange et l'adoration. Et pour cela, nous voulons le faire. Notre Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour ta sainte et précieuse parole, pour les promesses que tu as données dans ta parole au tien. Nous te remercions de ce que bientôt nous entrerons dans l'héritage, dans ton royaume, dans ta gloire. Ô Seigneur notre Dieu, nous n'avons pas mérité ces choses, mais c'est seulement par ta grâce que tu nous as appelés. Avant même la fondation du monde, tu nous as déterminés, Seigneur, comme Paul l'écrit aux Éphésiens, Seigneur, fais grâce aussi ce soir. Bénis tous ceux qui sont venus. Nous te remettons tout de suite les requêtes qui se tiennent devant nous. Seigneur, que tu puisses secourir, que tu puisses guérir, que tu puisses en tant que le même te manifester, en tant que celui, en tant que le grand, celui qui guérit. Nous te louons, nous t'exaltons et nous exaltons ton nom, Jésus. Louis et gloire que soit apportée dans le saint nom de Jésus. Alléluia.
Amen.
Amen. Amen. Nous nous asseyons. Honneur et gloire et adoration. D'un cœur reconnaissant pour tous tes preuves de grâce et de fidélité que tu manifestes toujours de nouveau.
Amen.
Amen. Nous demandons à Frère Franck de venir. Moi aussi, je salue tous cordialement et fraternellement dans le nom du Seigneur. Nous nous souhaitons un week-end comme nous l'avons jamais vu, que réellement la présence de Dieu parmi nous soit manifestée et que personne, mais vraiment personne, reparte à la maison sans avoir été béni. Devrait repartir sans avoir été béni. Nous saluons tous, de loin et de près, du monde entier. Nous avons reçu des paroles de salutation des frères de toute l'Afrique, de l'Asie, de différents pays nous remettent leurs salutations. Ensuite, le frère Graf de la Suisse, le frère Tati de Bruxelles, le frère Van Ström du Danemark, et comme déjà mentionné, nos frères du Cambodge, de Thaïlande, du Vietnam, oui, du monde entier, on ne peut pas citer tous les pays, de toute l'Afrique, du Kenya, de la République du Congo, de la Sierra Leone, de partout, du Bénin, de partout. Nous avons des salutations du frère Daniel de Cape Town et du frère Motika de Johannesburg. Nous sommes liés fraternellement avec tous. Et nous avons aussi des salutations particulières du Chili, de tous nos amis là-bas, de tous les frères et les sœurs qui aussi avec nous sont liés profondément, et tous ceux qui nous écoutent maintenant et nous voient, nous leur disons, soyez bénis avec nous au nom du Seigneur. Et nous nous réjouissons de ce qu'aujourd'hui nous avons des amis pour la première fois parmi nous. Puis-je savoir combien sont ici pour la première fois? Levez courtement les mains. Oui, peut-être que vous devriez déjà vous lever. La main n'est pas suffisante à voir. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Oui, ici nous avons des amis de Cape Town. Que Dieu vous bénisse très particulièrement. Que Dieu vous bénisse de Londres. Que Dieu vous bénisse des amis de la Tchéquie, des amis de la Finlande. Oui. Oui, et ici, soyez la bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes un peu beaucoup représentés, donc les différentes langues un peu mélangées, mais malgré tout, un dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse particulièrement. Les amis de Marseille, que Dieu vous bénisse. Oui, qu'est-ce que nous devons dire? Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Cela m'a particulièrement réjoui. Alors que le frère de la Finlande, qui aujourd'hui est ici pour la première fois, disait, j'étais dans les réunions de frère Branham et j'ai autrefois vu de mes propres yeux ce que Dieu a fait. C'est merveilleux de ce que nous sommes encore des témoins, nous avons encore des personnes qui ont vu de leurs propres yeux et qui ont entendu de leurs propres oreilles ce que Dieu a fait, qui était là autrefois déjà à l'époque. Et donc du fin fond du nord en haut, de la Finlande, de la Suède, de la Pologne, de la Tchéquie, de la Slovaquie, de la Roumanie, de l'Italie, de la Suisse, de la France, de l'Autriche, du Luxembourg, de la Belgique, de l'Hollande, tout est aujourd'hui ici représenté. Et nous remercions Dieu, les frères, ou bien alors le bus de la Roumanie ont entrepris 1720 kilomètres pour être ici aujourd'hui d'autres ont entrepris, 1200 d'autres, 900 km d'autres, 800 km, 600 km, et les différents kilomètres, ils les ont entrepris pour aujourd'hui être ici. Et quand nous pensons alors que Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu de grâce, alors nous savons qu'aujourd'hui, il va nous récompenser et il parlera avec nous. Soyez bénis, particulièrement ici, de Cape Town, que Dieu vous bénisse parmi nous, de Londres et de Paris et de Bruxelles et du monde entier, les frères et sœurs de la langue française qui regardent par l'écran en bas dans la salle, et je voudrais leur donner une parole de consolation. Dieu voulant, nous allons ici dans la salle en haut bientôt agrandir le balcon et ainsi nous créerons 120 places de plus en haut, et particulièrement nous avons pensé à le faire pour tous les frères et sœurs de la langue française pour qu'ils puissent ensemble s'asseoir et écouter la traduction. Nous nous réjouissons simplement de ce que c'est encore le temps de la grâce et que Dieu encore parle et qu'il sauve encore et qu'il se révèle encore. J'ai plusieurs paroles des Écritures qui me sont particulièrement dans le cœur. D'abord, je voudrais aller dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Jusqu'ici, cette parole liée avec cette pensée que le Seigneur n'est pas seulement là où deux et trois ou trois sont réunis en son nom, mais aussi là où plus de 500 frères sont réunis, étaient réunis, il était présent, et nous pouvons dire et croire qu'il est toujours présent là où son peuple en son nom est réuni pour écouter sa parole. Quand nous considérons les quatre exposés et compte rendu de l'Évangile, nous avons une vue d'ensemble de la naissance, déjà depuis la naissance de notre Sauveur, jusqu'à sa montée au ciel. Et si nous allons dans Matthieu 28, dans Marc 16, dans Luc 24, dans Jean 20 que nous lisons, alors nous trouvons là, n'est-ce pas, le compte-rendu de ce qui s'est passé le jour de la résurrection de notre Seigneur, ce qui s'est passé le matin du jour de la résurrection. Comment est-ce que le Seigneur a rencontré les femmes qui étaient venues à la tombe? Comment est-ce que les deux disciples étaient venus et avaient constaté la tombe vide? Comment est-ce que le soir du même jour, le Seigneur avec ses disciples avait apparu parmi ses disciples. Alors nous, nous retrouvons tous ces comptes rendus et nous savons que cela est vrai et a toute sa valeur aujourd'hui encore. Que le Seigneur se révèle aux siens en tant que le ressuscité. Et celui qui va dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, et lit, constatera dans les versets 2 et verset 3 que le Seigneur, pendant 40 jours, a instruit et enseigné ses disciples avant de les envoyer. Mais que quand le soir arrivait, il était rassemblé avec les siens pour, en tant que le vivant, en tant que le ressuscité, être parmi eux et se manifester. Alors que je lisais cette parole, que il a apparu à la fois à plus de 500 frères. 1 Corinthiens 15, verset 6. Cela a déclenché quelque chose en moi. Réellement déclenché. Si aujourd'hui nous regardons parmi nous, peut-être que nous sommes plus de 700 personnes réunies ce soir et nous pouvons et nous avons la grâce de nous attendre à ce que encore aujourd'hui il nous visite, car il est écrit qu'il est le même en tant que le ressuscité, le lever du soleil, et qu'il accorde le salut, la guérison, la délivrance, et qu'il accorde toutes les bénédictions par sa grâce, c'est-à-dire il nous les a déjà donné, ces bénédictions, comme écrit dans Éphésiens 1, verset 3, que nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous avons seulement besoin de les recevoir dans la réalité, de le croire et de l'expérimenter. Je voudrais ne pas manquer de mâchonner en ce jour d'aujourd'hui si important pour moi. Dans ce haut jour, pour moi, le 2 avril, vous savez, a la signification qu'elle avait encore autrefois. C'était un 2 avril, le dimanche de Palme, alors que le Seigneur, sur une ânesse, était entré à Jérusalem et que on avait jeté devant lui les feuilles de palmier et qu'on avait crié et qu'ils avaient crié autrefois Hosanna, Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les hauteurs. Le 2 avril 1962 demeure dans ma vie le jour particulier et j'aurais préféré chanter ce chœur. C'était le plus beau jour que Dieu m'a donné, avec une responsabilité qu'aucun homme ne peut se représenter. Et pour peut-être essayer un peu expliquer cela, avec le frère Ziegler et le frère Kupfa, tout à l'heure avant la réunion, j'ai eu un bref entretien et les deux frères ont exprimé une pensée. Seulement quand nous-mêmes, nous sommes dans certaines situations, par les épreuves qui viennent dans notre vie, c'est seulement comme ça que nous pouvons aussi comprendre les autres dans leurs épreuves. Et ça, c'est la parole de 2 Corinthiens, le premier chapitre, le verset 3 et le verset 4, que nous puissions alors, pas seulement consoler les autres, mais de la consolation que nous avons nous-mêmes reçue dans les moments d'épreuve, être capable alors de consoler les autres de cette consolation-là que nous avions reçue. Et cela aussi nous fait penser à la parole que le Seigneur a exprimée lui-même alors qu'il disait « Je ne vous laisserai pas seul, mais je vais vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, le Consolateur, il sera avec vous Il sera avec vous et en vous. Là, le 2 avril 1962 était un jour qui dans la fin des temps, de la part de Dieu lui-même, a été lié à l'histoire du salut. Je n'ai jamais demandé à Dieu d'avoir un appel. J'ai même pas su que une telle chose existe, que le Seigneur, avec une voix puissante, audible aujourd'hui, encore pourrait parler. J'ai dans la réalité jamais auparavant pensé à cela. Mais si aujourd'hui, quand aujourd'hui nous regardons en arrière, alors nous voyons de quelle manière merveilleuse Dieu, dans sa souveraineté, sans regarder à la personne et faire exception de personne, il prend qui il veut, il envoie qui il veut, il appelle qui il veut, il utilise qui il veut. Quand il écrit dans le psaume 115, Dieu fait ce qu'il veut. Et c'est ainsi que nous devons seulement exécuter le mandat que nous avons reçu avec véracité et fidélité, car il ne s'agit pas d'un temps passager. Il s'agit de toute l'éternité. Et tous, nous voulons nous tenir devant Dieu. Quand je pense à ce que frère Branham, le 3 décembre 1962, a donné la confirmation et a répété mot après mot ce que le Seigneur m'a dit le 2 avril de la même année. Frère Branham n'aurait pas pu savoir ces choses si ce n'est que Dieu le lui révèle. Je ne veux pas ici rentrer dans les détails. Cela n'est pas nécessaire. Mais quand nous continuons à voir comment est-ce que Dieu lui-même, d'une manière merveilleuse, a dirigé toutes choses, justement, jusqu'à ce temps où frère Branham, donc, le jour de mon anniversaire, le 24 décembre, a été repris. Moi, je ne le savais pas. Je n'aurais pas pu le savoir à l'époque que le 18 décembre 1965, il avait eu un accident. J'aurais pas pu le savoir. Mais le 24 décembre, je ne savais pas qu'il avait eu un accident le 18. En 1965, le 24 décembre, moi, frère Frank, j'ai vu frère Branham pris sur un nuage courbé devant. Et dans cette vision, j'ai dit, frère Branham, tu n'es pas le fils de l'homme. Pourquoi est-ce que je te vois monter comme ça, pris, porté par ce nuage, sans savoir que c'était exactement l'heure et la minute dans laquelle frère Branham était en train d'être pris du temps dans l'éternité. Et ensuite, comme nos frères encore peuvent rendre ce témoignage, est venu le 31 décembre 1965. Et là aussi, nous n'avions pas su auparavant que frère Branham avait été repris. Ça, je l'ai appris seulement le 5 janvier par une lettre du frère Ambrouster. Et quand ensuite l'Esprit de Dieu s'est infusé puissamment le 31 décembre, ici, il y a eu des prophéties, des parler à langue. La présence de Dieu a rempli la salle qui était exactement occupée de 120 personnes. Et ensuite, dans une prophétie, il a été dit, mon serviteur, j'ai placé mon épée dans tes mains. J'ai de tout mon cœur rejeté cette prophétie et j'ai pensé à moi-même, non, c'est pas possible. L'épée de l'esprit est dans la main de Frère Branham, mais pas dans ma main. Mais je ne savais pas le 31 décembre que Dieu l'avait repris le 18. Le 24 décembre. Et donc nous voyons comment est-ce que pas après pas Dieu sur Tout le chemin nous a conduit jusqu'à ce jour de l'ensevelissement de ce grand homme de Dieu, où le même jour, le soir, la paix de Dieu est venue sur moi. Et une voix dans mon cœur, pas audiblement, mais le cœur vraiment était en mouvement, et cela a parlé à moi. Maintenant, ton temps est arrivé de distribuer la nourriture qui a été emmagasinée. Je suis revenu en Allemagne et le ministère a commencé dans le royaume de Dieu avec les voyages dans le monde entier. Et c'est ainsi que Dieu réellement, dans le déroulement des années, a lui-même ordonné les choses. Il les a révélées. J'avais rien besoin d'inventer. J'avais pas besoin de raconter une histoire. Je peux avec véracité me tenir et me diriger d'après ce que Dieu réellement, dans sa préscience, a fait, a dit et a ordonné et déterminé. Maintenant, nous sommes arrivés dans un temps où de la correction aussi à l'intérieur du message et donc est nécessaire. De la correction est nécessaire à l'intérieur du message et certaines choses doivent être éclaircies. Et nous devons, nous voulons que la parole de Dieu devienne révélée dans notre cœur, dans toute sa signification, et qu'elle soit un trésor, et qu'elle soit précieuse pour nous, et que nous puissions revoir, donc retrouver toutes les prédications de Saint Branham dans la Bible, dans la parole de Dieu, et que nous devons reconnaître, pas seulement devant nous, oui, c'est obligé, nous devons reconnaître que quand Dieu envoie un prophète, quand il a dû, comme il a dit lui-même, c'est pour retourner nos cœurs à la parole des pères, c'est-à-dire au sein des Écritures, comme Paul disait à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3, tu es versé dans les Saintes Écritures, et ce sont elles qui te feront comprendre ce que je dis. Et il s'agit, quand un prophète apporte la parole de Dieu, c'est pour ramener le peuple de Dieu à la parole de Dieu et à Dieu. C'est ainsi que maintenant, les derniers sont appelés à sortir de tous les peuples, les langues et les nations. Il faut qu'une épouse parole soit manifestée telle que l'époux et telle la parole de Dieu devenue chair, et que l'épouse était en lui, telle que Ève était en Adam. C'est ainsi que l'épouse était en Christ, et telle que le côté d'Adam a été ouvert, et que Ève a été prise de son côté, est sortie. C'est ainsi que le côté de notre Seigneur sur la croix a été ouvert, et que le sang a coulé, et que l'épouse a été sortie. Nous étions, avant même la fondation du monde, déjà déterminés, déjà élus, et choisis et prédestinés pour participer à l'éternité avec Dieu dans la gloire. Quelques versets en relation avec la parole de Colossiens. Colossiens, l'épître aux Colossiens, Colossiens chapitre 1. Ici nous avons tout un nombre de pensées qui vont être exprimées. Colossiens, le chapitre 1, à partir du verset 14. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 14. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Pas en qui nous allons avoir, nous aurons, mais nous avons reçu la rédemption. Dieu était en Christ et pas va, mais a réconcilié le monde avec lui-même. En fait, nous avons tout un nombre de points qui ici, en quelques versets seulement, sont résumés et exprimés. D'abord, le premier point, la rédemption que nous avons reçue de Dieu. Et en relation avec la rédemption, le pardon des péchés. En relâchant avec le rachat. Car Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Le prochain vers, la prochaine pensée qui est exprimée ici est exprimée au verset 15 que le Fils est l'image du Dieu invisible. L'image, l'apparition, l'apparition visible, extérieure, visible du Dieu invisible. Et ensuite, il est exprimé le premier-né de toute la création. Cette parole était difficile à traduire dans les différentes langues. En fait, ça aurait été mieux, le noyau aurait été mieux touché avec cette pensée-là, le premier-né de la création parfaite, la création sans inclure la chute, car ici il s'agit de la nouvelle création. La première création avait été déjà créée depuis longtemps. Et il était celui justement qui avait appelé toute la création à l'existence par sa parole créatrice, par sa parole puissante. Et ici, il s'agit justement du premier-né qui est le premier-né de la nouvelle création, de la création parfaite. C'est lui qui l'a apporté, qui l'a manifesté. Et ensuite au verset 16, car en lui ont été créées toutes que les choses qui sont dans les cieux. C'est pas lui qui a été créé, c'est par lui que tout a été créé. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ici, nous avons de nouveau une vue dans ce qu'il était et qui est-ce qu'il était. Nous avons ensuite, dans le prochain verset, au verset 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. En lui, tout subsiste. Il a appelé toute chose à l'existence par sa parole créatrice. Il est responsable de tout ce qu'il a créé et tout subsiste en lui. Et maintenant arrive le point important pour nous au verset 18. Il est la tête, le chef, il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête de son corps. Il est la tête du corps de l'Église. La tête, c'est-à-dire duquel tout vient. Lui qui détermine et qui ordonne et qui dirige tous les membres. Il est la tête de son corps, c'est-à-dire de l'Église. Ici est le point important. Seulement celui qui réellement appartient à l'Église du Dieu vivant va être baptisé par le même esprit dans un même corps. C'est ainsi qu'il reconnaîtra Jésus-Christ en tant que la tête et tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a ordonné et tout ce qu'il a commandé et prescrit. Il est la tête, il est celui qui pense et qui décide. Les membres exécutent ses pensées, sont le reflet de la manifestation de ses pensées. Le premier-né d'entre les morts, le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ici, les traducteurs ont aussi eu des problèmes. Le mot Genèse veut dire commencement, origine. En lui, tout a son origine. Car c'est de lui et pour lui que tout a été créé. Il est le commencement, il est l'origine, il est le premier qui est ressuscité des morts, qui est sorti des morts. lui, le Fils engendré, le premier, qui est sorti des morts. C'est ainsi qu'il a ôté la puissance de la mort. Et ensuite, il est écrit de lui,
lui,
afin d'être en tout le premier. Oui, qui doit être le premier en tout. C'est pas possible autrement, c'est une obligation. Ça doit être ainsi. Sinon, nous séduisons et nous trompons nous-mêmes. S'il n'est pas le premier,
en tout
ce que nous faisons,
si
nous ne nous soumettons pas dans cet ordre du salut, dans cet ordre, dans l'Église, nous séduisons nous-mêmes. Il faut qu'il soit le premier en tout. Combien de fois nous devons dire l'Église du Dieu vivant est la chose la plus précieuse que Dieu sur terre a.
Il
n'y a rien d'autre qui était plus précieux que son Église, que son corps, comme son Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout, comme la Sainte Écriture le dit. Et ensuite, pour ici couronner le tout, il est écrit au verset 19, car c'était le conseil de Dieu, donc Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix, par le sang de sa croix. Nous avons ici, dans seulement quelques versets, une vue d'ensemble reçu de ce que signifie la rédemption et quel que cela et tout ce qui a été déterminé pour les racheter, pour les élus. Une vue d'ensemble de ce qui est important pour l'Église du Nouveau Testament et ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Car nous sommes ressuscités avec Christ pour marcher en nouveauté de vie. Celui qui veut aller dans cela pas à pas, par exemple, le premier point, c'est que nous avons expérimenté la rédemption et le pardon des péchés. Alors, avec cela, obligatoirement, il faut aller à Luc 24, au verset 47, et là, il est écrit que en son nom, la repentance et le pardon des péchés sera prêché à tous les peuples. Et on doit aller avec cette parole dans Jean 20, le verset 23, où il est dit, Jean 20, verset 23, où il est dit que ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et comment est-ce que cela s'est passé? Comment est-ce que les apôtres ont pardonné les péchés? S'il vous plaît, par la prédication, par le message du salut. C'est ainsi que le pardon des péchés a été apporté aux hommes. Et celui qui croyait à la prédication a reçu le pardon de ses péchés. Celui qui ne croyait pas, justement, ne l'a pas reçu. C'est ainsi qu'ils ont pardonné. Et ensuite, dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 38, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et c'est ainsi que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous voyons alors l'accord et l'harmonie totale dans les Saintes Écritures. Pas de prendre un verset biblique, de le sortir de son contexte et de l'interpréter, mais de consulter tous les versets bibliques et de les réunir ensemble pour avoir une vue d'ensemble sur ce sujet et recevoir la signification de la parole de Dieu. Par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 31, Dieu l'a élevé par sa droite. Par sa main droite, comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous avons ici la relation dans la parole de Dieu et nous devons simplement insister là-dessus et dire que toute les interprétations d'un seul verset biblique doivent conduire à l'égarement. C'est ainsi. Cela appartient à l'enseignement biblique que tous les versets bibliques qui appartiennent à un sujet soient réellement consultés et respectés et observés.
Actes d'Apôtre chapitre 43.
Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son sang, par son nom, le pardon des péchés. Est-ce que cela n'est pas assez clair? Partout, Dieu a utilisé la bouche de ses serviteurs, les apôtres, dans le Nouveau Testament, pour donner une vue d'ensemble de la prédication et une vue d'ensemble de tout le contenu de la prédication. Romains chapitre 5, le verset 12. Romains chapitre 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et ainsi la mort, c'est ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ça c'est connu. La mort s'est étendue sur tous les hommes. Dieu le Seigneur avait dit, le jour où vous mangerez de ce fruit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu devras mourir. Et voilà. La mort s'est étendue sur tous les hommes. Et tous, nous sommes nés dans le péché et il n'y a rien de plus sûr que la mort dans la vie. Et ensuite, nous voyons celui qui était immortel et qui dans son corps de chair est devenu mortel pour qu'il puisse dans son corps porter tout ce qui pourrait nous passer dans notre corps, le porter sur lui, à la main de payer le prix et verser son sang dans lequel il était en vie pour que nous puissions la recevoir et expérimenter la rédemption dans notre âme. Et le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ, par l'esprit de celui qui a ressuscité de notre mort, qui a pris dans notre cœur, que nos corps mortels soient transformés en un corps immortel. Combien de fois je devrais répéter cela? La résurrection de notre Seigneur est la garantie de notre résurrection. Son ascension, sa montée au ciel est la garantie pour mon enlèvement et pour ton enlèvement. Aussi certain qu'il est monté, nous monterons. Aussi certain qu'il est ressuscité, nous ressusciterons. Lui le premier-né, nous les premiers-nés. Romains 5, verset 15b. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été abondamment répandus sur vous. Ici, notre Seigneur est rédempteur dans son humanité, dans son corps de chair, est montré parce que justement, dans son corps de chair, dans son humanité, il a payé le prix pour que nous puissions participer à la nature divine. Il a fallu que cette nature soit manifestée dans la chair pour tous les hommes qui sont dans la chair. Ensuite, ici, dans Romains 8, verset 18, Romains 5, toujours, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Oh, quel évangile! Quel message merveilleux! De la gloire, de la grâce de notre Dieu! Tous les gens perdus. Et ici, le mot « tous les hommes » est important. La condamnation, la mort s'est étendue et a atteint tous les hommes. Et c'est ainsi que le Seigneur a dû venir pour nous racheter et nous sauver. Nous avons dans Romains 8 des versets importants. Du verset 1 au verset 3, Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation. Ne vous efforcez pas de condamner d'autres et ne permettez à personne non plus de vous condamner. C'est seulement celui qui accuse les frères, sinon personne d'autre. Et parfois, il utilise la bouche des hommes et on doit ici discerner et faire attention. Ici est le point. Nous avons 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4, que nous devons nous consoler et nous édifier de la consolation que nous avons reçue, pas nous condamner et nous juger, ne pas vouloir détruire et nuire, mais en tant que des membres du même corps, les membres se servent les uns les autres du don que chacun a reçu. Et personne dira quelque chose de nuisible ou bien de négatif sur un membre du corps. Là où le Seigneur est, là, il y a du bien, il y a l'édification. Et tous les ministères ont été donnés pour l'édification du corps de Christ. Mais là où il y a l'adversaire, là il y a la destruction, là on parle mal les uns des autres. Mais nous devons devenir une partie du corps de Jésus-Christ. Et nous avons la grâce déjà d'expérimenter une partie de cette restauration de toutes choses. Maintenant, dans Romains 8, encore le verset 1 jusqu'au verset 3, encore. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lui en nous et nous en lui. Sa parole est vivante en nous. Nous la portons en tant que la semence incorruptible dans notre cœur. Mais la deuxième partie s'intitule Dieu a condamné le verset 3. La deuxième partie du verset 3. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair.
Indem er seinen Sohn in der Gleichgestalt
en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et le mot envoyé peut-être encore pour éclaircir cela, tous les prophètes étaient des hommes envoyés de Dieu. Dieu avait parlé, Dieu avait donné des ordres et des appels et a envoyé ses serviteurs matin et soir. Toujours de nouveau, il est dit, je t'envoie, pas seulement dans Jérémie 1. Et ensuite, nous lisons de Jean le Baptiste, il était un homme envoyé de Dieu. On doit, avec cette parole envoyée, aller aussi dans Galates, le chapitre 4, et voir ce que cela veut dire, quelle signification. Car on n'a pas le droit de prendre un verset et l'interpréter. Ça ne veut pas dire que le Fils aurait été déjà au ciel et aurait été envoyé. Non, mais il est né à Bethléem. Et ainsi, par Jean-Baptiste, baptisé dans le Jourdain. Et ensuite, il est passé par l'épreuve, par la tentation, et ensuite l'envoi a été exécuté. C'est ici que nous allons dans Galates chapitre 4 pour avoir la signification de cela. Car un corps semblable à celui du péché a été formé. C'est ce que nous avons écrit ici dans Galates 4 au verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, et ensuite envoyé. Né d'une femme d'abord et ensuite envoyé. Né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Ça, c'est le grand conseil de notre salut, le grand conseil merveilleux du salut de notre Dieu, de ce que tous ceux qui ont le droit d'aimer, qui croient les promesses de Dieu et les reçoit, et ainsi confirme que Dieu est véritable, comme c'est écrit dans Jean 3. Verset 33, c'est-à-dire qu'ils ont part, car le droit d'aînesse nous garantit tout ce que Dieu, par sa grâce, nous a accordé. Jésus-Christ, le premier-né entre plusieurs frères, car lui, s'il est le premier-né, c'est ainsi que par lui, nous avons l'adoption, la position de fils. Et c'est ainsi que nous sommes le troupeau des vainqueurs, le troupeau des prémices. Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. C'est l'Esprit qui crie. Le verset 7, Galates 4. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la gloire, par la grâce de Dieu. Ou bien, aux traductions en allemand, par Dieu. Héritier par Dieu. Par Dieu. Donc, alors, il faut ici mentionner la deuxième partie. Du verset 5, afin que nous recevions l'adoption. C'est de ça qu'il s'agit. La délivrance de notre corps. Pas seulement l'esprit d'adoption, mais l'adoption. Romains 8. C'est ainsi qu'il ne s'agit pas de la religion, mais il s'agit du plan du salut dans son accomplissement. Pour que nous puissions recevoir la délivrance de notre corps, l'adoption. Et c'est ainsi que nous voyons que Dieu fait sur sa parole et sur tout le conseil du salut. Et il a révélé d'une manière nouvelle. Et là, il a placé sur le chandelier pour justement nous soumettre dans l'obéissance de la foi et nous introduire en nous soumettant à cet ordre du salut, à cet ordre de l'Église. Cette remarque ici, personne n'a le droit de cela permettre. Mais si nous voulons réellement sans porter le jugement, regardez partout combien de directions existent. Et personne veut se soumettre à la parole de Dieu, encore moins à l'ordre de l'Église. Tous ont raison, et tous ont des disputes, et tous savent mieux que les choses, savent mieux les choses que les autres. Et, mais quel fruit porte leur vie? C'est la question à poser. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas par nos paroles que nous serons reconnus, mais par la vie qui est manifestée de Dieu. Mais bien-aimés frères et sœurs, nous devons sortir de l'incrédulité et venir à la foi, sortir de la désobéissance, venir à l'obéissance, sortir des interprétations et des doctrines et venir à la parole de Dieu originale pour que justement pour que la restauration de toutes choses soit manifestée. Nous croyons qu'avant l'enlèvement, la restauration de toutes choses doit être manifestée. Le rétablissement de toutes choses, comme il est dans Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 20 et 21, tout avant son retour doit être ramené dans l'état qui existait dans l'Église primitive. Car c'est ainsi que la promesse est certitude. Et c'est une promesse, et toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Donc, de quoi il s'agit aujourd'hui? Je voudrais, dans ce contexte, ces choses, encore une fois, lire un verset biblique.
1
Corinthiens, chapitre 15, verset 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 21.
Denn, weil der Tod.
Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Par un homme, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons déjà eu à dire cela ici, alors qu'il avait dit, mon Dieu, dans Jean 19, pourquoi m'as-tu abandonné, le psaume 22, c'est ton cri et mon cri, c'est ta place et ma place qu'il a prise. C'est nous qui étions abandonnés et qui avions abandonné Dieu. Il devait à notre place, d'une manière réelle, mourir. Et devait à notre place mourir et prendre notre place. Mais après la résurrection, il est seulement nommé en tant que Seigneur. Il est toujours dit, le Seigneur est ressuscité. Toujours la désignation, le Seigneur, le Seigneur. Dans sa mort, son humanité a été manifestée, son dépouillement pour l'humanité. Mais dans sa résurrection, en tant que Seigneur, sur les vivants et la mort. Et comme le frère Branham, une fois, d'une manière merveilleuse, le disait, il disait, le diable pensait que alors que notre Seigneur était allé dans les endroits inférieurs de la terre, frère Branham disait, il pensait qu'il avait eu, l'adversaire pensait qu'il avait eu le Seigneur. Il disait, oh, j'ai assez longtemps attendu cette heure. Et frère Branham l'exprime et dit dans son imagination, je pensais que l'adversaire avait dit, oh, je pensais que quand j'avais fait, quand j'avais tué Abel, je pensais que j'avais, je t'avais eu, quand j'avais mis à mort tous les, quand j'avais tué tous les prophètes, je pensais que je t'avais eu. Mais maintenant, une fois que tu étais, c'était justement le contraire. Ce n'est pas Satan qui avait le Seigneur, qui avait le Seigneur, mais le Seigneur en tant qu'homme mourut pour nous les hommes, pour ensuite vaincre Satan, vaincre l'enfer, vaincre la mort. Et le troisième jour, il est ressuscité. Cela semble ainsi. Que quand nous regardons à la croix et au chemin à la croix, cela semble que le Seigneur avait la défaite et qu'il n'était pas vainqueur. Il se laissait cracher dessus. On l'a frappé, on a dit prophétie. Il dit qu'il t'a frappé. Et ils ont dit qu'il a aidé les autres et il ne peut pas s'aider lui-même. Tant de moqueries n'a jamais existé sur terre. Tant de mépris comme cela est arrivé à notre Seigneur sur le chemin à Gethsemane, en Gethsemane à Golgotha.
Mais
comme c'est écrit dans Jean 19, verset 28, puisqu'il savait que tout était accompli. Il a même encore dans ce de ce torchon
rief dann aus,
pris le vinaigre et il a dit, c'est accompli. Oh, ce cri de la croix, cette parole de la croix, c'est accompli. Dieu était réconcilié avec l'humanité. Bien-aimés frères et sœurs, acceptez simplement cela. Acceptez cela. C'est un don de Dieu, un cadeau de Dieu. Sans vous efforcer, sans mériter cela, sans mériter cela, sans être digne pour cela. Notre Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et c'est ainsi que vous savez que si vous écoutez l'appel et que vous suivez l'appel, ça c'est déjà la preuve que vous avez été élu avant même la fondation du monde. Tous ceux qui prêtent l'oreille au dernier appel, car notre Seigneur dit, personne ne peut venir à moi si ce n'est que le Père ne l'attire. Personne ne peut venir à lui. Et si tu ressens en toi que tu es activé à venir à la parole de Dieu révélée pour cette heure, alors viens et confirme l'appel divin reçu par toi et la prédestination. C'est ainsi que nous affirmissons notre élection. Alors, pas seulement devenir croyant avec notre intellect, avec nos pensées, notre tête, mais d'accepter, recevoir personnellement Jésus-Christ en tant que Rédempteur, Sauveur personnel, car c'est ainsi que c'est écrit dans l'évangile de Jean, le premier chapitre, versets 11 et 12. Tous ceux qui l'ont reçu, il faut qu'il y ait une réception. Et il est la parole. Quelqu'un dans le terrain, on reçoit quelqu'un. On lui ouvre la porte. Il faut ouvrir la porte à la parole révélée contenant toutes les promesses pour cette époque dans laquelle nous vivons. C'est ce que nous devons consciemment ouvrir la porte à notre Seigneur. Et ça n'a pas le droit de s'accomplir de nouveau qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Quand c'est écrit dans Apocalypse chapitre 3, il faut que tu accomplisses au verset 20 ce qui est écrit dans la deuxième partie, dans la dernière lettre aux églises d'Apocalypse 3, au verset 20. Que celui qui entend sa voix et qui lui ouvre la porte, il entrera et tiendra le repas avec lui. Aujourd'hui, il veut tenir le souper avec nous. Et je voudrais, dans ce contexte des choses, lire quelques versets bibliques importants. Les premiers, dans Luc, le chapitre 24. Dans Luc, le chapitre 24. Le verset
30 et 31.
Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Une parole merveilleuse. Après la résurrection, auparavant, nous avons lu le verset avant la résurrection dans Marc, dans Luc, où le Seigneur avait, pendant le repas de la Pâque, avait tenu la Sainte Cène avec ses disciples. Mais ici, après la résurrection, donc avait tenu le souper lié à la Sainte Cène avec ses disciples pendant le repas de la Pâque. Mais ici, après la résurrection, il s'est assis, il a pris le pain, il a rendu grâce, il a rempli et il le leur donna. Pourquoi est-ce que nous existons ici aujourd'hui sur le fait que cela a eu lieu après la résurrection? En général, quand nous lisons les versets pour le souper du Seigneur, nous mentionnons toujours les versets avant la résurrection, c'est-à-dire par exemple Marc, le verset 14, où il est écrit, verset 23, que notre Seigneur a pris le pain et l'a béni, a rendu grâce dans Marc 14, verset 23 jusqu'au verset 25. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en
burent
tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup. Ici, l'importance est mise sur le sang de l'Alliance. Nous insistons aussi toujours là-dessus, que dans la coupe, c'était le produit de la vigne en tant qu'un symbole. Et quand nous fêtons le souper, nous faisons la Sainte Cène, nous ne buvons pas du sang, car avec son propre sang, notre Seigneur en tant que grand sacrificateur est entré dans le sanctuaire céleste et il a placé sur le trône de la grâce. C'est ainsi que c'est écrit dans Hébreux 9, verset 11. Et verset 12, que avec son propre sang, il est entré dans le sanctuaire céleste pour accomplir, pour entièrement achever la rédemption. Il fallait que le sang de l'Alliance soit placé sur le trône de la grâce. C'est peut-être que ça, c'est encore la grâce et la grâce pour tous ceux qui se tiennent sous le sang de la nouvelle Alliance. C'est-à-dire qui reçoivent la vie qui est dans ce sang. Et la Bible, parce que quand nous prenons par la coupe, pendant la Sainte Cène, nous pensons à ce qui s'est passé pour nous sur la croix à Golgotha. Mais ici dans Luc 24, nous avons l'exposé, le compte rendu de ce qui s'est passé après la résurrection. Et cela me réjouit simplement. Nous vivons justement après la résurrection. Et nous avons la grâce de nous attendre, comme déjà je l'ai dit auparavant, que le Seigneur aussi est présent là où des centaines sont réunies en son nom et qu'il voit tous, il se tourne à tous, il parle à chacun et qu'il sauve ceux qui sont perdus, il guérit ceux qui sont malades, il guérit ceux qui sont liés et qu'il bénit comme il a béni au commencement. Ici, c'était un soir et il a dit, ils ont dit, reste avec nous, car le verset 29, car le soir approche, le soir était là, et voilà le jour était sur son déclin, et il est entré pour rester avec eux, et il a pris le pain, et après l'avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna. Remarquez-vous cela, ici, les paroles d'introduction de la Sainte Cène telles que, avant sa mort, elles ont été exprimées et dites, n'avaient plus besoin ici d'être mentionnées, car le sacrifice avait déjà été accompli, le prix avait déjà été payé. Maintenant, seulement rompre le pain et le donner. Il n'avait plus besoin de dire, prenez ceci, et mon corps, comme c'est écrit dans Marc 14, verset 22. Ensuite, il est dit au verset 31, alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, Quand est-ce qu'ils le reconnurent? Au moment où il rompit le pain et le leur donna. C'est à ce moment-là que les yeux s'ouvrirent et qu'ils le reconnurent. Alors qu'ils ont vu faire ce qu'il avait fait avant sa mort. Bien le frère et sœur, nous invitons aujourd'hui notre bien-aimé Seigneur et Rédempteur et Sauveur. Car le soir est là. Le soir est là. Minuit est proche. Et le Seigneur a un désir ardent de tout son cœur de tenir le repas avec nous. D'entrer et de tenir le repas avec nous. Il nous rompt le pain. Il nous donne sa parole. Il nous donne le mot donner à sa parole. Il donne sa parole. Car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais de la même manière, il est présent aussi. Et il dit, ma nourriture serait de faire la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'il veut nous donner. Il veut nous donner de faire la volonté de Dieu. Mais il faut que nous lui ouvrons la porte, qu'il entre. Et nous sommes réunis. Et nous avons devant nos yeux l'œuvre accomplie de la rédemption à Golgotha. Et si l'adversaire veut encore accuser quelqu'un, tous ceux qui croient à cette œuvre peuvent prendre part au souper et qui ont expérimenté le pardon de leurs péchés. La personne n'a pas le droit d'accuser. Romains 8, par exemple, doit être encore mentionné. Il faut lire à partir du verset 34 jusqu'à ce verset où il est dit « Qui veut accuser ou condamner les élus de Dieu ? Christ est ici qui les a justifiés. » Et encore, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur? Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, et bien-aimés amis, nous sommes sauvés et nous ne pouvons jamais plus être perdus. Dieu ne nous sauve pas aujourd'hui pour nous laisser nous perdre demain. Dieu nous a sauvés, et c'est peut-être raison qu'il est écrit, et il nous a donné la vie éternelle, pas seulement sauvés, mais la vie éternelle accordée, et celui qui a la vie éternelle vivra éternellement, c'est aussi certain qu'il a reçu la vie éternelle, et qu'elle est en lui. Donc, si l'adversaire veut nous introduire dans des tentations, dans des et veut nous accuser et veut nous éprouver, rejetez-le. Ne permettez pas qu'il vous infiltre dans un entretien, mais fixez vos regards seulement à Golgotha. C'est là, là, où notre Seigneur a dit, c'est accompli. C'est accompli. Le rideau s'est déchiré. Le chemin dans le lieu très saint, dans le lieu très saint, dans la présence même de Dieu, est inauguré, est ouvert et libre. Dieu est réconcilié avec l'humanité. Quel évangile merveilleux! Quel message de la croix et du crucifié et du ressuscité, notre Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, nous avons la grâce avec lui de prendre part au repas et lui avec nous. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir communion profonde avec lui. En tant que des hommes réconciliés avec Dieu, en tant que des personnes qui ont expérimenté le pardon de leurs péchés et qui ont reçu la vie éternelle. En tant que de telles personnes, nous avons la grâce aujourd'hui de prendre part au souper. Encore deux choses, il nous est dit dans 1 Corinthiens 10, au verset 15. À 17, que nous devons tenir le souper, on n'a plus besoin de lire tous ces versets, ils nous sont connus, nous tous. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 15, je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. Oui, jugez de ce qui est dit dans la prédication, de ce qui est exposé dans la prédication. Jugez dans vous-même de ce que je dis. Dites-moi ici et aujourd'hui, est-ce que cela est ainsi tel que Dieu dans sa parole l'a dit, oui ou non? Oui, bien sûr. Bien sûr, nous croyons que c'est ainsi tel que Dieu l'a dit dans sa parole. Ce n'est dit que c'est. Ce n'est dit que c'est. Jugez dans vous-même. Ensuite, au verset 16, la coupe, 1 Corinthiens 10, verset 16, la bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sein de Christ? La communion au sein de Christ. Dans le sang est contenue la vie. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, n'est-elle pas la communion au sein de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Quelle comparaison merveilleuse! Le verset 17. Puis, qu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Est-ce que vous remarquez? Ici, il s'agit déjà de la de l'Église. Dieu a un corps en Jésus-Christ. En lui, Dieu habitait. Toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Et maintenant, l'Église rachetée forme le corps du Seigneur, la plénitude de celui qui toujours encore remplit tout en tout. Et c'est pour cette raison que nous avons ici cette parole merveilleuse. Nous formons un seul corps. Et nous avons le témoignage de ce que en fait signifie le souper du Seigneur, la Sainte Cène. Encore le verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Oui, c'est ainsi. Un pain, et il est rompu, et ensuite ce sont plusieurs morceaux de ce même pain, de ce seul et même pain. C'est ainsi que nous sommes un corps, mais constitué de plusieurs membres du même corps, où Jésus-Christ lui-même est la tête. Bien et sœurs, il faut que les pensées de Dieu deviennent nos pensées et que les chemins de Dieu deviennent nos chemins. Et que c'est tellement pour ça que nous pouvons nous soumettre à Dieu et résister au diable. Accepter la parole de Dieu. Soyez d'accord avec tout verset qui est lu et que toute résistance et rébellion soit ôtée. Il faut que les pensées de Dieu, il faut que nous soyons soumis à la tête, que le vieil homme n'ait plus rien à dire. Comme dans Éphésiens 2, il est dit que nous exécutions nos pensées autrefois, les pensées de notre chair, que maintenant ce n'est plus le cas. Mais comme on a lu dans 1 Pierre chapitre 1, verset 3, que nous soyons nés d'abord, régénérés pour une expérience vivante, et par la résurrection, nous serons capables, selon Romains 12, de discerner ce qui est bon, parfait et agréable devant lui, par la régénération. Et que ce n'est plus le vieil homme qui a quelque chose à dire, mais que nous puissions de tout notre cœur nous soumettre à Dieu, car Romains 8 nous dit que la chair ne peut pas se soumettre à Dieu. Il faut naître d'en haut, naître de nouveau, être régénéré, pour ainsi être revêtu de toutes les bénédictions de notre Dieu. Et en fait, les bénédictions, beaucoup peuvent en avoir. Nous avons besoin de plus que ça. Nous avons besoin de plus que ça. Quand nous regardons aujourd'hui dans les mouvements charismatiques, tous parlent de grandes bénédictions. Nous voulons être bénis, tel que Abraham a été béni. Nous voulons, et comme Paul le dit aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3 d'Éphésiens, de toute bénédiction qui est dans les lieux célestes en Christ. C'est de ça que nous voulons être aujourd'hui. Aujourd'hui, être bénis ce soir, car la malédiction est ôtée une fois pour toutes de nous, et les fautes et les péchés ont été expiés et couverts, et notre passé est effacé. Nous avons un futur merveilleux. Ton passé est effacé. Alléluia. Le Seigneur aujourd'hui veut, en tant que de ressuscité, se manifester. C'est peut-être donc que nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie et à ne plus vivre comme nous avons vécu autrefois. Et je voudrais encore ajouter cette phrase. À quoi cela nous servirait de lire toutes ces comptes rendus de l'Écriture et de voir que le Seigneur avait apparu le matin de sa résurrection avant que le soleil se soit levé et avait apparu aux femmes? À quoi cela nous servirait de lire tous ces différents témoignages de sa résurrection et ensuite nous-mêmes ne pas expérimenter la même chose aujourd'hui? Ça n'a pas le droit d'être. Jésus-Christ est le même encore aujourd'hui. Il faut que ce que nous lisons dans la Bible soit aujourd'hui notre expérience. Si nous lisons qu'il a apparu à plus de 500 personnes, il peut qu'aujourd'hui nous puissions comprendre qu'aujourd'hui c'est sa volonté encore. Ici, à chaque fois que nous nous réunissons, et ce soir, que cela se passe par ta grâce, qu'il apparaisse et qu'il se manifeste à plus, à nous tous qui sommes ici, ce soir. Et ensuite, nous pouvons aussi rendre témoignage que le 2 avril, cela s'est passé. Le 2 avril, le soir, cela s'est passé aussi avec nous, que le Seigneur est venu à nous et nous a bénis et parmi nous s'est manifesté. Et cela, nous voulons maintenant dans la foi l'accepter. Et combien sont convaincus que la parole est vraie et qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et sa parole est encore vraie aujourd'hui. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, vous m'expérimenterez. Je serai en vous, je marcherai parmi vous, en vous, j'habiterai et je marcherai, car je suis votre Dieu et vous êtes mon peuple, le troupeau racheté par le sang, le peuple de la nouvelle alliance. Acceptez cela et remerciez Dieu pour cela de tout votre cœur. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons nous lever et adorer. Peut-être d'abord avec le cœur. Tu es digne. Tu es digne.